7-9, intervenez.
Allez, une première question, Muriel Pénicaud. C'est Marie qui vous la pose. Marie, dans le 20e arrondissement de Paris, est-ce que la complexité du code du travail vous a gêné, Madame Pénicaud, en tant que DRH chez Danone?
Bonjour. La complexité du code du travail, elle est plus forte encore pour les TPE, PME, puisqu'un artisan, un agriculteur, un chef d'une petite entreprise, comment voulez-vous qu'ils connaissent tout le droit? Et c'est une complexité aussi pour le salarié, car on ne connaît pas bien ses droits quand on est salarié. C'est pourquoi nous allons aussi mettre en place un code du travail numérique qui permettra pour le salarié, pour les TPE, PME, de comprendre le code du travail, mais surtout ses droits et ses devoirs. Par exemple, si vous êtes un salarié du bâtiment et que vous vous intéressez au temps de travail, vous pourrez demain taper, enfin pas demain tout de suite, il faut le temps de le faire, une année, temps de travail bâtiment, et vous saurez, parce que si ce que vous propose votre employeur, c'est le droit. Et donc c'est cette connaissance du droit, cet accès au droit simple qui est l'enjeu, plus que le code de travail lui-même, c'est l'accès à la compréhension du droit. Et donc ça fait partie de l'égalité des chances de tout le monde.
Donc vous n'étiez pas gêné par le code du travail, pour répondre clairement à Marie, quand vous travailliez chez Danone?
Bien sûr que si, mais les grandes entreprises, il y a des DRH, il y a des services juridiques. Donc le vrai sujet, c'est dans les petites entreprises, et c'est vrai pour les salariés.
Olivier, sur Twitter, vous demande la chose suivante. Dans l'entreprise, l'employeur et les salariés ne sont pas égaux en droit. Est-ce conforme à l'idéal républicain?
Bonjour. Oui, je crois que le sujet de la formation est important. Et c'est pour ça que dans les 5 ordonnances, il y a tout un volet sur les organisations syndicales et sur les élus du personnel pour renforcer leur droit à la formation, leur formation comme élus, mais formation aussi professionnelle pour qu'ils puissent continuer leur carrière après. Car aujourd'hui, une des difficultés des organisations syndicales, c'est qu'ils ont un manque de candidats, parce que les gens ont peur s'ils deviennent élus du personnel, et bien finalement de ne plus avoir de progression de carrière, d'être coincé. Donc, bilan de compétences, formation, perspective de carrière.
La question porte sur l'idéal républicain et sur l'inégalité qu'un code du travail est censé corriger.
Alors, l'égalité, qui est un de nos grands principes républicains, comment on s'assure de l'égalité des chances? Et donc, ça ne peut pas être qu'à
l'intérieur de l'entreprise.
Oui, dans l'entreprise.
Les employés et
merci Thomas
Legrand. Vous ne pouvez pas l'avoir complètement sur le rapport individuel. C'est pour ça qu'il faut aussi de l'organisation collective. Le rapport entre un salarié et un employeur, par définition, n'est pas égal, puisqu'il y en a un qui embauche l'autre et qui a le pouvoir de décision de l'embaucher.
Et donc le code du travail corrige cette inégalité.
Oui.
Alors pourquoi l'avez-vous simplifié? Pourquoi l'avez-vous passé comme ça à la moulinette?
On ne change strictement rien à ça. Le code du travail est fait pour protéger les salariés. Par contre, et on change la manière dont le salarié va pouvoir avoir son mot à dire à travers les organisations qui le représentent, pour qu'il y ait plus de grain à moudre, plus de discussions dans l'entreprise. Mais c'est pas tout seul. C'est pas un débat individuel. Il faut des élus du personnel, il faut des organisations syndicales pour que ce débat ait lieu et qu'il soit équilibré. Le Code du travail prévoit que pour équilibrer ce débat, eh bien, il y a des représentants du personnel. C'est pour ça qu'il faut des représentants du personnel.
Thomas Legrand, j'ai l'impression qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure. Justement, ce qui pose problème,
c'est le confirmer, Thomas.
C'est les endroits où il n'y a pas de représentants du personnel. Comment faire pour qu'il y ait plus de représentants du personnel?
Aujourd'hui, il y a.
Est-ce que parce qu'il y aura plus de grains à moudre, vous pensez qu'il y aura donc plus de représentants du personnel? Et qu'est-ce qui est fait dans vos ordonnances pour que ce mouvement soit réel?
Muriel Pénicaud.
Dans les grandes entreprises, le fait d'avoir plus de grains à moudre, de fusionner aussi les différentes instances, va donner beaucoup plus de pouvoir au débat, beaucoup plus de champs de discussion.
Ça, on a compris, mais
dans les petites, aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'avoir ce débat, puisque je rappelle que 55% des salariés travaillent dans les petites entreprises, et il n'y a que 4% de ces entreprises où il y a un délégué syndical.
Donc vous créez la possibilité d'un débat pour que, dans un deuxième temps, les syndicats s'y installent.
Mais exactement.
Est-ce qu'il y a des mesures d'incitation pour que les patrons acceptent que des syndicats viennent s'installer là où ils ne peuvent pas être, à cause du rapport de force que vous avez bien décrit?
C'est souvent faute de candidats.
Vous faites, Muriel Pénicaud.
C'est souvent faute de candidats. Très souvent, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de représentants du personnel dans les petites entreprises, il n'y a pas de candidats.
Parce qu'ils ont peur.
Pas que. Il y a aussi, parce qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas. Et donc, je pense qu'il faut encourager. Vous voyez, l'état d'esprit, c'est il faut que tous ceux qui veulent avancer dans le dialogue social, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient salariés ou représentants des salariés, aient plus de liberté, plus de capacité à le faire. C'est ça le centre de cette réforme. C'est une décentralisation sur le terrain. Évidemment, si on pense que sur le terrain, il n'y a que des affreux jojo des deux côtés et qu'on n'a rien à discuter, il ne faut pas faire...
Non, Thomas, s'il vous plaît. On passe au standard. Patrick, bonjour, vous nous appelez de Saint-Étienne.
Oui, bonjour.
Vous êtes sur la route, là, ou quoi ? Vous êtes sur la route, Patrick ?
Absolument pas.
Eh ben, écoutez, formidable. On vous écoute, alors.
Bonjour, monsieur de Morvan. Bonjour, madame la ministre.
Bonjour.
Voilà, donc mon propos, c'est celui-là. Je suis, en tant que gérant d'un commerce employant de 1 à 3 salariés en fonction de la saison, et en fonction des saisons, je suis évidemment tout à fait en accord avec le fait de, pour un petit patron que je suis, de pouvoir embaucher facilement. Et pour moi, embaucher facilement, ça veut dire pouvoir me séparer de mes salariés facilement. J'entends par là que quand on embauche évidemment un salarié, c'est pas pour le licencier, mais il y a toujours ce risque. Et quand on est un petit patron de TPE, c'est toujours très très compliqué. Il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir un seul prud'homme et j'en ai eu une expérience amère. Ceci dit, je souhaite que dans cette loi soit assuré ce qu'on appelle dans les pays nordiques la flexi-sécurité, qu'un salarié qui peut être licencié puisse retrouver
avoir,
un emploi facilement et puisse
et avoir un puissant filet de sécurité pour les salariés. Flexi sécurité, Muriel Pénicaud.
Oui.
On voit flexi, on voit pas sécurité dans cette réforme.
Je pense que il faut effectivement le faire, mais à la française, en s'inspirant de notre histoire sociale. Et donc il y a un sujet de compétitivité, de flexibilité, mais je crois, comme vous l'avez dit, monsieur, très bien, pour avoir confiance, pour embaucher, faut que ce soit flexible dans les deux sens, mais avec des protections des salariés. Et la meilleure protection, la meilleure sécurité, c'est vraiment la compétence. Parce qu'un salarié qui est compétent, aujourd'hui, on commence à avoir des centaines de milliers d'emplois, on n'a personne en face. Donc c'est pour ça que le deuxième volet, ça va être la formation professionnelle, le grand plan d'investissement compétences. Il faut penser cette réforme du Code du travail conjointement avec la réforme de la formation professionnelle. Le Code du travail lui-même ne crée pas les formations, il crée les droits à la formation. Mais ensuite, il faut qu'on ait tous ces dispositifs qui vont permettre à des salariés de pouvoir saisir les opportunités de marché.
Comment avez-vous reçu la critique de la CFDT qui souligne, alors qu'elle a fait un important travail collectif autour de la réforme du Code du travail, qui souligne à quel point la France, et avec votre réforme, c'est encore pire, est loin éloigné de la démocratie sociale. C'est pas la CGT qui dit ça, c'est la CFDT. Alors,
je vous laisserai l'interprétation des propos de Laurent Berger.
Ils sont assez clairs.
Je pense qu'on a travaillé, comme vous le savez, dans une concertation très approfondie. Près de 300 heures avec les partenaires sociaux. Ils l'ont tous reconnu, d'ailleurs, que la méthode avait été loyale, sincère, qu'on avait une vraie concertation. À la fin, nous avons voulu une réforme qui est équilibrée, qui est juste. Certains apprécient certains aspects, d'autres moins, d'autres plus. Je dirais c'est à la liberté de chacun. Mais ce que je pense qui est...
C'est une critique de fond quand même, parce que tout ce que vous dites au micro d'Inter depuis 8h20, Muriel Pénicaud, c'est qu'il est important d'aller vers une autre culture, une culture de la concertation, une culture du dialogue. Oui. La démocratie sociale, c'est l'institutionnalisation de ça précisément. Et la CFDT dit on aurait pu y passer, on aurait pu y aller, on aurait pu se diriger vers ça. Eh bien non.
Je crois que on verra la réalité sur le terrain, comment pour les 18 millions de salariés, pour les 3 millions d'entreprises, ça a eu un effet et on a énormément de signaux d'entrepreneurs, mais aussi du côté organisation syndicale et sur le terrain, et ça je suis sûre que toutes les organisations syndicales ont cette vue, sur le terrain je suis persuadée qu'il va se passer quelque chose parce qu'il y a maintenant des attentes. Je vais vous donner un exemple. Dans la loi, il y a un sujet qui n'était pas traité, le télétravail. Télétravail, c'est un sujet qui ne rentre pas dans le sujet de la lutte des classes. Il faut sortir de ce sujet de la lutte des classes. La réalité...
Elle n'existe plus pour vous.
Je pense que c'est une mauvaise lecture du monde. Et que c'est une lecture qui est partagée par une partie syndicale et une partie patronale, pour être honnête. Mais que c'est une minorité et de plus en plus minoritaire. Le télétravail est une très bonne illustration. Le télétravail, il y a 14% des Français qui ont le télétravail, il y en a 61% qui le souhaitent. Aujourd'hui, c'est impossible juridiquement, et quand c'est fait, c'est possible. C'est fait malgré le droit qui ne le protège pas. Dans la loi, on va prévoir le cadre. Est-ce que c'est pour les patrons ? Est-ce que c'est pour les salariés ? Il faut penser que parfois, c'est la même chose. Quand j'étais DGRH de Danone, j'ai mis en place la protection sociale mondiale pour les 100 000 salariés. C'est le premier groupe au monde qui l'a fait. Parce que dans les pays émergents, il n'y en avait pas. Est-ce que c'est patronal? Est-ce que c'est syndical? C'était un progrès social immense. Ça a sauvé des vies. Mais en même temps, ça a fait baisser l'absentéisme, les accidents du travail, et ça a augmenté la motivation des gens. C'est ça qui est intelligent. C'est ça qu'on cherche. C'est ça que ceux qui pensent que oui, on peut faire de la compétitivité économique et de la justice et du progrès social en même temps, et cet espace pour expérimenter, pour faire, pour définir, encadré par le code du travail, qui borde et définit les limites, hein. Il n'est pas question d'inventer ce qui les concerne.
Pourquoi
toutes les entreprises ne sont pas les mêmes.
Pourquoi, Muriel Pénicaud, il n'y a pas de « en même temps » dans cette réforme?
Il y a du « en même temps » à toutes les lignes. Hein.
Oui, mais la formation sur la démocratie sociale, parce que vous ne m'avez pas répondu, il peut y avoir les réformes telles qu'elles sont mises en œuvre, telles qu'elles vont maintenant avancer. Il peut y avoir en même temps un renforcement, une incitation à la démocratie sociale avec le rôle plein donné aux syndicats. Alors, on parle beaucoup de flexi-sécurité, mais dans les pays où elle s'applique, les syndicats sont puissants, y compris dans les toutes petites entreprises.
On a prévu deux modalités dans l'entreprise. Une modalité où le futur conseil social et économique, qui regroupe les trois instances, a un rôle renforcé par rapport à aujourd'hui. Donc on renforce la démocratie sociale. Et on a prévu une possibilité pour les entreprises et les organisations syndicales qu'ils souhaitent à aller vers un modèle plus important, type conseil d'entreprise, où on pourra négocier. C'est-à-dire aller à un modèle avec de la codécision. Donc on a mis dans la loi la possibilité, par accord majoritaire des deux parties, d'aller jusqu'à la codécision. Ça n'est jamais arrivé en France.
Agnès, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Pau, bienvenue.
Je vous pose une simple question. Je travaille dans une petite entreprise et le délégué du personnel a été imposé par le patron sous menace de licenciement. Je n'ai pas voté pour lui, mais j'ai un couperet au-dessus de la tête. Si ce système de délégué du personnel qui est proche du patron a tous les droits que nous ne pouvons rien dire, que pouvons-nous faire?
Merci Agnès.
Alors,
Muriel Pénicaud.
Il y a des cas minoritaires d'abus. C'est exactement ce que vous êtes en train de décrire. Et pour ça, il y a plusieurs recours. Le premier recours, c'est que dans les entreprises, à côté de l'adresse du médecin du travail, l'inspecteur du travail, il y aura aussi le lien qui permet de trouver où sont les organisations syndicales. C'est tout concret, tout pratique, mais c'est important. Et puis, surtout, on va créer un observatoire du fait syndical et de la négociation sociale. On va voir les sujets de formation de compétences des salariés, mais aussi de la discrimination syndicale. Car pour la première fois, on reconnaît, oui, qu'il existe, c'est minoritaire, mais ça existe, la discrimination syndicale, et c'est scandaleux. Et donc, on aura aussi une action de lutte contre ça, car il faut être cohérent. Si on croit au dialogue social, il faut que les deux parties soient respectées.
Le Premier ministre a dit hier que ces textes pourraient être amendés à la marge. Elles sont où les marges, de votre côté, Muriel Pénicaud?
Il y a eu 300 heures, une centaine de réunions de concertation. Le texte des ordonnances est maintenant écrit. Il a été transmis hier au Conseil d'État. Il fera l'objet d'une présentation au Conseil des ministres le 22 septembre, puis d'une signature du président de la République. Et les marges de manœuvre sont les consultations officielles, puisqu'il y a cinq commissions que nous devons consulter, c'est prévu par la loi, où sont à chaque fois les représentants des organisations patronales et syndicales. Donc tout ça aura lieu dans les 10 jours. Donc la philosophie de fond, cette démocratie sociale et ce renforcement de ce qu'on peut discuter dans l'entreprise et la branche ne va pas changer. Après, beaucoup d'experts du coup vont regarder la totalité des textes. Il y a toujours dans ces cas-là un certain nombre de suggestions qui pourront à la marge être prises, mais elles seront à la marge.
Une question de Caroline qui vous tutoie sur Twitter, mais c'est l'usage.
Muriel, ça me gêne pas.
Muriel Pénicaud, donc vous dites qu'il n'y a plus de lutte des classes. Facile à dire quand on a bénéficié de plus d'un million d'euros de stock options.
Alors,
ça fluidifie la lutte des classes, ça c'est sûr.
J'ai une longue carrière derrière moi. Je travaille depuis 42 ans. L'argent n'a jamais été un moteur. J'ai eu des postes très bien payés, d'autres pas. Par contre, et je le dis aussi en tant que femme, quand je suis dans un univers, je considère que les femmes n'ont pas raison d'être moins payées que les hommes. Il y a un débat sur la rémunération des dirigeants et on peut avoir un débat là-dessus. Je suis prête à en débattre. Je pense qu'il y a beaucoup à débattre sur ce sujet. Par contre, quand on est dans les dirigeants internationaux, on est dans le dispositif des dirigeants internationaux. L'usage que j'en fais après, c'est mon affaire.
Dominique, comment peut-on faire confiance à une ministre du Travail qui a profité du licenciement de 900 personnes pour valoriser ses stocks options, point d'interrogation.
Alors, il n'y a pas eu de licenciement de 900 personnes. C'était un plan de départ volontaire où plus de gens ont demandé à partir. C'était une évolution de l'organisation et on a créé d'ailleurs un fonds de création d'entreprise. C'était essentiellement des cadres qui étaient dans ce plan. Beaucoup ont créé leur entreprise. D'autres avaient d'autres projets professionnels. Il n'y a eu que de volontariat. Donc ça n'était pas un plan de licenciement.
Est-ce que vous redoutez, Muriel Pénicaud, une mise en examen dans l'affaire Business France ?
Non, je suis très sereine. Dès que j'ai été alertée d'un possible dysfonctionnement, c'est moi qui ai lancé l'enquête, c'est moi qui ai fait faire l'audit. Je connais les rapports, je connais ce qu'a fait l'analyse de l'inspection générale des finances.
Vous avez la date pour le rendez-vous avec la justice ?
Je n'ai pas été convoquée ou invitée par la justice.
Une dernière question. Dominique Seux disait tout à l'heure que la philosophie de cette réforme est libérale. Il disait, voilà, il faut l'admettre, il faut le dire, il n'y a pas de drame, c'est le cas. Est-ce que vous reprenez ce terme ?
C'est à la fois libéral et social. C'est à la fois libéral au sens, oui, on pense que libérer les énergies des entreprises, encore une fois, si on veut créer de l'emploi, il faut que les entreprises soient en confiance pour créer de l'emploi et dynamiser leur approche du marché. Donc oui, bien sûr, il y a cette dimension-là. Et en même temps, il n'y a rien de pouvoir unilatéral dans l'employeur. Tout passe par l'accord majoritaire, tout passe par le dialogue social. Et ça, c'est un choix à la française et à l'européenne qui est différent d'autres géographies du monde. On a 70 ans d'histoire sociale et on croit à ce dialogue social. Donc c'est libéral et social.
Augustin Trapenard, bonjour.
Salut Nicolas.
8h54, une dernière question pour notre invité.
Et dans le prolongement de la vôtre, bonjour Muriel Pénicaud. Vous avez sans doute entendu ce matin au micro d'Ali Badou, son invité, la sociologue et philosophe Dominique Méda, nous parler de votre réforme en citant Adam Smith, le philosophe écossais, fondateur du libéralisme, père du capitalisme, et qui a écrit il y a près de 250 ans. Ça doit quand même vous interpeller, vous qui venez des rangs de la gauche et qui parlait d'avancée sociale, Muriel Pénicaud, franchement.
Alors, je ne l'ai pas entendu ce matin. Mais je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Mais par contre, je pense aussi qu'on plonge nos inspirations dans une longue histoire propre à la France. Et on n'a pas copié-collé un modèle d'un autre pays dans ce projet. On a vraiment réfléchi à partir de notre histoire sociale. Et dans notre histoire sociale, je citerai quelqu'un d'autre, c'est Antoine Riboud qui, en 1972, devant le CNPF, le MEDEF de l'époque, s'est fait d'ailleurs en partie huer, parce qu'il a déclaré qu'on ne pouvait pas avoir de progrès économique et de croissance sans des salariés motivés, formés, représentés et sans dialogue social, et également en prenant en compte l'écologie et les ressources. Donc il y a des gens depuis 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, et puis dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui continuent, je pense, d'irriguer cette conception qui est ma conception de l'entreprise. Je pense que l'entreprise de demain, elle sera dynamique si son énergie est libérée, si elle a la liberté, mais en même temps une responsabilité sociale et environnementale. Et ça passe par le dialogue organisé, structuré. Et je crois qu'on peut vraiment continuer et progresser en France pour inventer des entreprises de demain qui seront plus motivantes pour les jeunes que le mode un peu classique, très hiérarchique, sans
les
dialogue.
Les jeunes veulent du travail.
Ils veulent du travail et ils veulent de la considération et de la reconnaissance.
Les parents auront moins de droits. Est-ce que les enfants auront un travail après votre réforme ?
Les parents auront moins de droits.
C'est une question, je la formule comme ça. Vous avez nié depuis le début qu'il y ait moins de droits, mais comme disait Thomas Legrand, on peut avoir, pour le dire poliment, une appréciation différente. Bah, mais est-ce que les enfants, puisque c'est ça le grand problème, les jeunes auront du travail ?
Alors, c'est la priorité, je pense, évidente pour tout le monde. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on va s'investir à fond dans la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Aujourd'hui, on a un gâchis humain énorme. On a 1 million de jeunes qui ne sont plus scolarisés, qui ne sont pas à l'université et qui ne sont pas en emploi. C'est dramatique sur le plan humain, c'est dramatique sur le plan économique et social. Et ça va être la grande priorité de la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
Restez avec nous jusqu'à 9h.